Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors cet été, dans Histoire de savoir, sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles, dans Histoire de savoir, donc vous allez pouvoir retrouver des podcasts qui ont été réalisés par des étudiants et des étudiantes en éducation spécialisée de la H2B de Fray. Et donc tout au long de ces écoutes, ils et elles vous feront découvrir le métier de l'éducatrice spécialisée en accompagnement psychoéducatif, et tout ça à travers différents concepts spécifiques du métier. Alors ça peut aller du mentor en passant par le référent, l'implication ou encore l'engagement. Je vous souhaite un très bel été et une bonne écoute.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast intitulé X, présenté par Prudence Bay et moi-même, Juliette Forêt. On avait envie de mettre des mots sur un aspect important de notre futur métier, l'engagement affectif et émotionnel. Pas seulement l'attachement que l'on peut ressentir, mais aussi ce que ça révèle en nous, comment on travaille notre place entre proximité et distance. Prudence va nous partager ce qu'elle a observé durant un de ses stages, et à travers des interviews des micro-trottoirs, nous allons pouvoir comprendre comment cet engagement et tout ce qui se joue avec dans une relation peut devenir une force en apprenant à le reconnaître et à ne pas s'y perdre.
Donc voilà, Juliette nous a introduit le sujet du podcast. C'est vrai qu'en stage, particulièrement en stage de troisième, donc qui s'est passé cette année-ci, j'ai été confrontée à de nombreuses situations. Et en fait, tout simplement, je ne vais pas expliquer une situation particulière. Je vais laisser une jeune de mon stage, qui est un enregistrement avec lequel elle a totalement accepté que je l'enregistre. Elle va elle-même exposer sa situation. Et de là, on pourra par après débattre sur la thématique de l'engagement, et plus particulièrement sur l'engagement émotionnel, parce que ça pose quand même question, ça demande à réflexion. Et c'est vrai qu'avec Juliette, on a quand même envie d'avoir l'avis d'autres personnes que le nôtre, parce qu'on se pose pas mal de questions à ce sujet-là. Donc voilà.
C'est quand le dernier contact que tu as avec maman?
Mardi, la semaine prochaine.
Mardi, la semaine qui vient de passer?
Non, la semaine.
Encore avant, quand moi j'étais au Maroc?
Oui, quand j'étais au SPJ.
Quand t'étais au SPJ, donc t'as vu maman au SPJ? Elle est venue au rendez-vous,
maman? On a parlé que tout est rendu chez papa et maman, à Kevin au téléphone, il ne répond pas.
Ok. Et donc ça veut dire que le lundi qui vient de passer, maman n'a pas répondu? Et t'as pas eu de message avec maman? Donc t'as pas eu maman au téléphone depuis hier? Ça veut dire 15 jours? Ok. Donc t'as pas eu maman au téléphone depuis que nous on s'est vu la dernière fois. Est-ce que tu as fait un message à maman pour voir si elle répondait? Non? Parce que, pourquoi? Parce qu'elle a dit non?
Non, elle a rien dit.
Elle a rien dit? Ok. Donc quand on rentrera, je pense que je vais voir si elle voit ça.
Mais maman!
Mais je comprends. Je comprends totalement. Je comprends que tu sois hyper triste. Sauf que moi je sais pas faire. Plus, si maman répond pas, moi, tu sais bien, je peux pas l'appeler. Je peux pas aller chez elle. Je sais rien faire de plus que toi. Je peux éventuellement faire un message. À voir si c'est accepté par Eléa. Tu vois? D'accord? Mais donc, on peut déjà regarder si maman est active, si maman, enfin, tu vois?
Si maman a pas changé de numéro.
Si maman a pas changé de numéro, ça, on peut essayer de voir. D'accord? Mais normalement, maman, elle...
Triste.
Oui, t'es très triste, mais je comprends, Louane. C'est normal que tu sois très triste.
Ok, alors vous venez ici d'entendre le passage de cette jeune, qui est un passage pour moi très émouvant et qui est un peu la base de notre podcast et ce qui introduit tout ce qui va venir après.
Voilà, nous venons d'entendre l'enregistrement de Prudence et de la jeune. Comme Prudence l'a fait précédemment avec l'engagement, je vais définir l'engagement émotionnel. Donc quelque chose d'émotionnel, c'est quelque chose qui est propre à l'émotion. L'émotion, c'est une réaction affective provoquée par une stimulation venue de l'environnement. Avec ces différentes définitions, nous pouvons dire que l'engagement émotionnel est le fait de se lier activement à une situation, une personne, une activité par une implication affective. C'est un processus par lequel une personne s'investit de manière consciente ou non, en réponse aux émotions suscitées par des stimulations provenant de son environnement. Autrement dit, c'est un engagement nourri par l'émotion, où la promesse d'agir est portée par une réaction affective. Cette définition vient du dictionnaire, mais avons-nous tous cette même définition ? Qu'est-ce qui pourrait l'influencer ? Qu'en pensent d'autres personnes ? C'est ce que nous allons voir. Tout d'abord, nous avons posé diverses questions à des gens dans la rue. Après ces différents échanges tout aussi riches les uns que les autres, nous avons décidé de dédier des interviews à différents professionnels du milieu social afin d'obtenir également leur point de vue sur la question.
Maître met en place de cette personne et essayer de comprendre les émotions et trouver une manière de l'aider.
Oui, ça c'est sûr que bon, ça fait partie de la vie, qu'il faut vraiment qu'il y ait une amitié sincère entre les gens. Et déjà, de l'amour universel, hein, ça veut dire universel, on doit nous aimer bon, naturellement. Certains degrés d'aimer, on ne peut pas aimer tout le monde de la même façon.
C'est un pacte que tu fais avec toi-même pour être sûr que tu fais bien les choses.
Pour moi, les limites sont là où l'autre se sent mal à l'aise et il faut respecter le sentiment de l'autre. C'est là la limite pour moi, c'est le mal-être de l'autre, quelle que soit la relation, amoureuse ou amicale.
Pour terminer ce podcast, vous aurez le point de vue de professionnels. Il y aura Gauthier, un éducateur de terrain, Monsieur Paul Fay, professeur de sociologie à Defray, Madame Christiane, professeur de droit, et Madame Zamatoro, professeur de psycho et psychologue. Vous aurez le point de vue de chacun, de ce qu'il... À ces professionnels de terrain, nous avons également posé ces questions, c'est-à-dire, qu'est-ce que l'engagement pour eux de manière générale ? Qu'est-ce que l'engagement pour eux dans leur métier ? Et qu'est-ce qu'ils en pensent par rapport au métier d'éducateur spécialisé ? Voilà.
Mes études à Jeudon, donc à la Haute École Lucia de Brouckère, j'ai terminé en 2017. Ensuite, j'ai commencé par travailler dans un centre pour mineurs étrangers, donc un centre pour MENA. Et après, j'ai terminé dans un SRJ où j'ai travaillé deux ans plus ou moins. Pour au final terminer à William Lennox depuis 6 ans maintenant.
Et en tant qu'éduc, comment tu décrirais l'engagement émotionnel dans le métier ?
Alors, je ne sais plus ce que j'ai dit avant, parce qu'au cas où c'est la deuxième prise. Donc l'engagement émotionnel, qu'est-ce que ça pourrait être dans notre métier ? C'est vraiment un engagement que chaque personne va avoir différemment par rapport aux passions qu'il a en face de lui. Quand je dis différemment, ça va aussi surtout impacter le vécu des deux personnes. Et donc, par exemple, s'il y a un enfant qui aurait eu un vécu presque similaire ou quoi par rapport à l'adulte, l'adulte pourrait effectuer une sorte de transfert sur lui, où vraiment, il pourrait avoir une certaine, soit emprise ou soit autre chose, par rapport à cet enfant.
Comment tu sais quand tu es trop dans une relation ?
Alors, quand on est trop dans une relation, que ce soit... Enfin, après, quand c'est un trop, en général, c'est jamais bénéfique. Je trouve qu'il y a certains éléments qui sont faciles, entre guillemets, à décoder. C'est par exemple, quand on rentre chez soi, ben, on pense toujours à la situation. Et on est beaucoup trop impliqué donc, émotionnellement par rapport à cette situation. On ne va pas se remettre en question par rapport à une façon de travailler ou quoi. Par exemple, pour le jeune, on va juste se dire « Oh, mais oh, pauvre loulou, j'aimerais bien faire ça avec lui. » Ou justement, si c'est trop négatif, on va juste penser totalement l'inverse en se disant « Ouais, ben, tant pis, il peut rester, entre guillemets, comme ça. De toute façon, on fera rien pour lui, tant pis, quoi. » Donc ça peut aussi être une forme de désengagement, on va dire, si ça a un côté un peu plus négatif. Ou de surengagement, je ne sais pas si ce mot existe, mais ça peut être intéressant, si c'est un peu trop positif.
Est-ce que tu penses que cet engagement est conscient ou non ?
Alors je pense que c'était un engagement au début inconscient, donc, comme j'expliquais au point avant, peut-être avec le transfert ou quoi, ou bien les situations vécues par l'un ou par l'autre, mais après justement c'est quelque chose... qui se conscientise au fur et à mesure du temps. Normalement, le professionnel, normalement, devrait prendre conscience que il a peut-être dépassé certaines limites ou autres, ou bien voilà, simplement.
Et comme ça fait un petit moment que tu es éducateur, comment tu as trouvé l'équilibre entre être présent émotionnellement et garder une certaine distance ?
L'essai-erreur. Parce que bon, je pense que tout professionnel à un moment risque de se faire avoir, entre guillemets, dans une relation, ou bien la relation va un peu le submerger, ce qui arrive à tout le monde au moins une fois dans sa carrière. Et justement, en fait, il faut travailler sur cette situation, ne pas rester sur « oh ben tant pis, je ferai juste attention alors que je fais annoncer. » Ok, qu'est-ce qui a fait en sorte que je suis rentré dans une situation pareille? Qu'est-ce que j'aurais pu mettre en place pour ne pas être là-dedans, ou enfin, c'est la juste distance, en fait, aussi, travailler là-dessus, quoi.
Merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
Non, je pense qu'on est bon.
Merci beaucoup.
Oui, pas d'enregistrer, hein.
Bonjour, alors je suis donc Roland Polfet, comme tu viens de le dire. Je suis sociologue de formation. Ça fait à peu près 22 ans que je forme des éducateurs spécialisés, éducatrices spécialisées. En autant d'années, j'ai été impliqué dans des processus de recherche internationale pendant une dizaine d'années au sein du centre CERISES. Et actuellement, je partage mon temps de travail entre la formation des éducs et un boulot d'indépendant complémentaire, puisque je suis aussi superviseur d'équipe.
Alors, notre thème tourne autour de l'engagement affectif et émotionnel. Et donc, on aimerait avoir votre avis sur plusieurs points. Est-ce que vous trouvez que dans le métier d'éducateur spécialisé, est-ce qu'il y a forcément une obligation à avoir un engagement affectif ?
Je réfléchis. Est-ce qu'il y a une obligation à avoir un engagement affectif ? Oui. Alors, au même titre que toute relation sociale, dans laquelle il y a toujours de l'engagement affectif, quel qu'il soit, oui, à condition qu'il soit pensé, réfléchi et analysé, conscientisé. Là où ça commence à m'inquiéter, c'est quand il n'y a pas d'analyse des enjeux, qu'on ne capte pas, qu'on est à fond pris dans un transfert. Avec la personne qu'on accompagne, et donc mais c'est une relation, donc on n'est pas en travail avec avec des documents, des livres, on travaille avec des gens, quoi, avec des personnes qui sont abîmées dans l'existence, et que pouvoir ramener l'autre, l'accompagner dans un processus qui l'amène vers une vie suffisamment bonne pour lui, en fait, il faut apporter ce regard assez bienveillant et considérant, et comme on a vis-à-vis de chaque individu, chaque humain, quoi. Est-ce qu'on doit avoir l'attachement affectif particulier, spécifique ? Là, je commence à... J'ai pas de réponse définitive. Tu me sens hésiter, hein, dans ce que je raconte. Je me balance un peu, mais en tout cas, ça doit être professionnalisé. Et surtout, ça doit être mis en perspective avec des tiers, cet engagement affectif. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une équipe autour de soi, il doit y avoir éventuellement une supervision individuelle du travailleur. Parce qu'en fait, ça peut glisser à tout moment. Mais c'est pas parce que ça peut glisser à tout moment que du coup, il faut s'abstenir. Il n'y a pas de relation qui soit neutre sur le plan affectif, c'est sûr. Mais du coup, il faut la travailler, cet engagement affectif.
Est-ce que dans l'engagement, pour vous, il y a d'office s'impliquer émotionnellement qui va avec ?
Émotionnellement, c'est ça, hein, le terme. S'impliquer émotionnellement. Alors, je pense qu'il y a une erreur dans la phrase, ou une mécompréhension, je pense, des mécaniques de l'émotion. Je pense qu'on ne s'implique pas émotionnellement. les émotions, elles viennent. Mmh. Elles sont là, quoi. Que tu le veuilles ou non, elles sont là. Alors tu peux tenter de les étouffer, tu peux tenter de les faire taire, tu peux essayer de... Tu peux exprimer une certaine forme de déni par rapport aux émotions. Mais ces émotions, elles sont là. C'est qu'en fait, c'est une manifestation physiologique qui présente, quoi qu'il en soit. Mais j'entends cette question de cette dimension émotionnelle de l'engagement, mais c'est exactement la même structure de réponse que je vais te donner que ce que je t'ai donné tout à l'heure. C'est que, de nouveau, elle est, oui, elle est concomitante, elle est nécessaire, elle est humaine, c'est ce qui fait que nous sommes là et que nous sommes, je l'espère, a priori pas remplaçables par une IA, en tout cas pas complètement. C'est parce que on est intriqué dans des enjeux affectifs, qu'on est intriqué dans des enjeux émotionnels, et que ce que vit l'autre en fait me laisse pas indifférent. Et c'est ça qui va me mobiliser. Ça peut être un moteur, quoi, de l'engagement. L'engagement, c'est une manifestation physiologique qui est suscitée par un stimuli, quelque chose que je perçois de mon environnement extérieur et qui doit me mener à l'action a priori. C'est pour faire quelque chose. Et donc, oui, c'est un moteur fondamental. Ça me mène, en fait, à entrer en relation avec l'autre, à l'entendre, à l'écouter, à le considérer, à le faire réfléchir, à faire plein de choses avec lui, à lui proposer tout ce qui est à ma portée. Mais effectivement, ouais, ça part de l'élan émotionnel. Il faut le conscientiser, c'est tout.
Est-ce que on pourrait avoir votre définition plus spécifique de l'engagement en général, pas spécialement dans la relation éducative, vraiment au sens très très large?
Alors, l'engagement, pour moi, peut se définir en termes d'investissement dans l'action. Elle se définit comme une prise de position aussi, pas que dans l'action, mais dans une prise de position où je vais défendre certaines valeurs, certaines conceptions du vivre ensemble. Et donc, s'engager, c'est quand on s'engage, pour moi, c'est essentiellement une conception politique. Pour moi, on ne peut parler d'engagement que parce qu'il y a conception politique. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de vision du monde, une vision du vivre ensemble qu'on essaie de promouvoir, défendre et dont on cesse de propager en fait un récit et de rallier autour de soi des gens autour de ce récit-là. C'est une société plus solidaire, plus juste, avec une meilleure répartition de richesses. Un monde dans lequel tout à chacun, quelles que soient ses différences et son altérité, a sa place. Et en fait, c'est ça, l'engagement. Et que la plupart du temps, les gens sont engagés sans se rendre compte qu'ils sont engagés, quoi. C'est que la plupart du temps, souvent, l'action de l'engagement, c'est par rapport à des causes politiques, idéologiques, sans savoir qu'en fait, ils véhiculent une idéologie. Ils véhiculent une vision du monde. Et que parfois, cette vision du monde, elle est par méconnaissance, elle est brouillée par des discours justement politiciens, je dirais, mais pas politiques, politiciens, c'est-à-dire orientés idéologiquement vers une finalité qui n'est pas toujours rendue explicite par les partis politiques. Donc voilà, donc je définirais donc l'engagement comme un investissement individuel et collectif en vue de défendre et de proposer en fait une manière de vivre ensemble, une manière de vivre ensemble, disais-je. Voilà.
Est-ce que pour vous, du coup, dans une équipe où il y a plusieurs métiers différents, donc pluridisciplinaires, il peut y avoir différentes visions de l'engagement, et est-ce que ça peut fonctionner, du coup?
Oui. Alors ça peut fonctionner, et c'est tout à fait OK. À partir du moment où je n'érige pas une conception du monde comme un dogme. En fait, je n'ignore pas, même si je défends une vision du monde, que ça reste une idée. que ça reste quelque chose dont je ne suis pas absolument et parfaitement certain. Et que cette évolution, cette vision du monde, elle s'accommode, elle s'adapte, elle s'assouplit, elle se change au contact d'autres perceptions du monde et d'autres visions du monde. Et plus j'ai ce degré d'ouverture vers d'autres conceptions de l'engagement, plus on peut construire ce qu'on appelle un engagement collectif, pas juste un engagement individuel. Et donc effectivement, l'idée, c'est qu'à un moment donné, c'est que la conception, enfin, en tout cas que mon engagement initial, individuel, ce que je porte, mettant une conviction forte de ma personne, de mes valeurs et de mon idéologie, s'adapte et trouve un terrain d'entente avec les autres conceptions. Et c'est ça, le vivre ensemble. C'est fondamentalement, en fait, c'est qu'à un moment donné, l'individu doit nécessairement lâcher certaines choses pour pouvoir s'associer, collaborer avec d'autres, d'autant plus que mon engagement pour la vision du bien commun et de l'intérêt collectif, en fait, elle ne peut être atteinte que, enfin atteinte, on s'entend bien, en toute relativité, mais que par la coopération avec d'autres. Et donc oui, forcément, quoi. C'est qu'en fait, il faut juste en parler, il faut juste en discuter. Faut, tu vois, et dans les moments formels, comme au moment d'équipe ou de mise au vert, de moments de supervision, comme dans des moments informels où on va boire un coup avec ses collègues et on refait le monde, quoi. Et donc c'est con, mais refaire le monde, c'est de là qu'on parle, en fait, de notre engagement, de ce pourquoi on est là en tant qu'éduc, en tant que travailleur social. En fait, pourquoi, en fait, tu viens défendre quoi, comme ils ont, pourquoi t'es là, en fait, fondamentalement.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose encore?
Non, je pense que j'ai dit ce que je pensais de cet aspect-là. Je pense que j'ai fait le tour, en tout cas, de ma vision du monde. Je te remercie de m'avoir donné la parole.
Et je vous remercie, moi, d'avoir accepté cette interview, monsieur.
Ok. Merci. J'espère que je n'ai pas été trop confus.
Non, ça va aller. Okay. Merci beaucoup.
Ça a été.
Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, quelques lignes?
Bonjour, alors donc je suis Valérie Christians, je suis professeure à Defré dans la section éducateur spécialisé et je suis juriste de formation, donc je donne essentiellement des cours de droit ici à Defré.
Pour vous, en tant que prof de droit, comment est-ce que vous définissez l'engagement? Et si vous arrivez, comment vous définissez l'engagement émotionnel?
Alors c'est une très bonne question. L'engagement, c'est le fait de s'impliquer, selon moi. Alors ici, j'imagine que c'est l'engagement éducatif, l'engagement professionnel, donc le fait de s'engager professionnellement dans un travail, une tâche qui nous est donnée, demandée. Et donc, à l'égard ici des bénéficiaires aussi, il y a toute cette notion autour de l'engagement émotionnel. Moi, je le vois plutôt comme étant effectivement tout ce que cela peut aussi... avoir comme conséquence sur la manière dont on vit les choses, le recul que l'on peut avoir aussi par rapport à des situations ou les émotions que ça peut provoquer chez nous, chez les éducateurs spécialisés. Je ne suis pas moi-même éducatrice spécialisée, mais en tout cas, c'est comme ça que je le comprends, l'engagement émotionnel.
Est-ce qu'il y a des limites juridiques à l'engagement ou l'engagement émotionnel, d'après vous ?
Les limites juridiques à l'engagement émotionnel, ce sont, j'ai envie de dire, toutes les lois, les limites légales. C'est-à-dire que on évolue dans un cadre légal qui fait que on a des lois anti-discrimination, on a des lois qui interdisent aussi le racisme, etc. Et donc, effectivement, l'éducateur spécialisé doit évoluer dans ces sphères-là et respecter tous ces contours-là. Maintenant, des lois spécifiques sur jusqu'à quelle mesure un éducateur peut ou ne peut pas s'impliquer émotionnellement dans son travail, ça non, je ne pense pas qu'il y ait de cadre juridique bien précis.
Est-ce qu'il y a des risques au niveau de la loi ou à votre niveau si on s'implique trop, d'après vous ?
Alors de nouveau, l'implication, trop d'implication d'un point de vue légal, de nouveau, il faut voir dans quelle situation. Si je prends l'exemple d'un éducateur qui, effectivement, parce qu'il s'implique trop, développe des sentiments amoureux, à l'égard d'un bénéficiaire et entretient une relation éventuellement d'ordre sexuel, conjugal avec ce bénéficiaire, oui, là, ça peut effectivement l'amener à être en porte-à-faux avec la loi et du coup, avec la question de cette notion de consentement aussi, hein, en fonction de la vulnérabilité du bénéficiaire ou autre. Donc ça, c'est dans ces situations-là. Dans d'autres situations, non, il n'y a pas de balise très claire qui dit que l'éducateur doit s'arrêter à tel niveau d'engagement émotionnel dans une situation. Voilà, tant que ça respecte effectivement le cadre légal d'une relation professionnelle, il n'y a pas d'autre balise juridique.
Est-ce que vous voulez rajouter encore quelque chose ?
Mais il me semble que la dernière question, en tout cas, elle me faisait penser aussi au secret professionnel. Mm-hmm. Donc, est-ce que tu peux juste la relire ?
Comment le droit protège la relation éducative ?
Voilà. Et donc, dans cette question-là, comment le droit protège la relation éducative ? Ben, il y a notamment, justement, à travers cette notion de secret professionnel qui est très importante. Moi, j'aime effectivement essayer de bien faire comprendre aux étudiants que, outre l'aspect infraction et risque de sanctions pénales, qui est quand même voilà, dans la pratique relativement peu... Il y a peu de risques, en tout cas, que les éducateurs soient vraiment poursuivis et condamnés à une peine de prison ou d'amende. J'aime bien effectivement rappeler que c'est d'abord et avant tout la relation de confiance qui est mise à mal à partir du moment où l'éducateur spécialisé ne respecte pas le secret professionnel. Et donc, je pense que le secret professionnel est une balise importante qui permet de fortifier et de garantir la relation de confiance entre le professionnel et ses bénéficiaires. Et que donc, ce secret professionnel-là, justement, vient renforcer ce lien.
Merci beaucoup, madame, pour votre temps.
Avec plaisir. La fin, c'est pas très...
Donc, si je comprends bien, avant de partir vers l'engagement émotionnel, on part vers l'engagement de manière générale. Alors, qu'est-ce que l'engagement ? J'aurais tendance à dire que l'engagement est la capacité d'un être humain à pouvoir s'investir, que ce soit dans une tâche, que ce soit dans une relation. Mais ce ne sera pas n'importe quelle tâche et ce ne sera pas n'importe quelle relation non plus. Et inévitablement, qui dit investissement dit également conditions d'investissement et moyens pour s'investir. Donc ça, en effet, on est en train de traiter de l'engagement. Et l'engagement émotionnel, mais pour s'investir dans une tâche ou pour s'investir dans une relation, eh bien, cette tâche ou cette relation, avant de pouvoir m'y engager, elle m'évoque déjà quelque chose. Donc j'ai déjà des émotions, j'ai déjà des sentiments, j'ai déjà un ressenti particulier avant que je m'engage, qui va déterminer peut-être le degré d'investissement que je vais avoir dans ce que je vise. Et les émotions, en fait, elles nous accompagnent au moment où j'ai en effet la tâche ou la relation, jusqu'à la fin et même après. Donc en fait, j'ai envie de dire que l'engagement émotionnel, il est durable et il n'a pas forcément de fin, puisque même une tâche qui est passée, a posteriori, va m'évoquer quelque chose, va m'évoquer une émotion. Pareil pour une relation. Maintenant, je ne vais pas m'investir avec la même intensité, je ne vais pas m'investir avec la même fréquence, et donc je ne vais pas non plus m'investir avec le même bagage. Que ce soit une tâche ou que ce soit une relation, si j'estime de prime abord, en fonction de mes compétences, qu'elle est plus difficile qu'une autre, eh bien, je ne vais pas m'investir de la même manière. Donc, les émotions, même les émotions par rapport auxquelles j'ai été éduquée et ce que j'ai vécu avant, vont teinter le degré d'investissement que je vais me faire par rapport aux nouvelles tâches, par rapport aux nouvelles personnes que je vais rencontrer, par rapport au nouveau contexte que je vais côtoyer. Donc, pour moi, l'engagement émotionnel, il est donc variable, il est dépendant de plusieurs conditions, mais c'est ce qui permet, en fait, à chaque être humain qui participe à la tâche ou qui participe à la relation de se sentir vivant. Je ne suis pas juste une personne qui veut atteindre un objectif. Je suis quelqu'un d'humain, donc qui va ressentir certaines choses quand je vais atteindre cet objectif, quand je vais m'imaginer cet objectif et quand je vais savoir si cet objectif, il est atteint ou pas. Voilà pour moi l'engagement émotionnel, ce qu'il peut représenter. Alors, dans ma profession, est-ce qu'il y a engagement émotionnel ou pas ? Oui, et il est nécessaire qu'il y ait engagement émotionnel. Le tout, c'est de pouvoir déterminer, moi, ce que je me permets de communiquer comme émotion et comment je les communique. Et ça me demande également de pouvoir déterminer comment l'autre va communiquer ses émotions. Parce qu'on s'attend à ce qu'une émotion puisse être communiquée de manière tout à fait verbale, tout à fait sereine et tout à fait respectueuse, mais ce n'est pas toujours le cas. Et surtout, ça ne doit pas toujours, et c'est souvent le cas, que ça ne soit pas communiqué uniquement de manière verbale. Donc une émotion, elle peut tout à fait se communiquer à travers un soupir, elle peut tout à fait se communiquer à travers un regard qui est posé de manière particulière sur une chose. Ça peut être également une attitude particulière. Donc souvent, quand on dit émotion, on dit expression verbale. Et dans les ateliers qui sont proposés en institution, souvent c'est le cas. C'est-à-dire qu'on va se concentrer sur des ateliers verbaux. Mais une émotion peut être véhiculée par une partie du corps, voire l'entièreté du corps en lui-même. Et quand bien même on essaye de freiner une communication à travers le corps, il y a inévitablement des données internes au corps, battement de cœur, transpiration que l'on peut voir ou que l'on ne peut pas voir, et qui peut déterminer aussi le degré d'investissement émotionnel d'une personne sur ce sujet ou dans cette relation. Je prends par exemple, je ne sais pas moi, ce qui va parler à tout le monde quand vous tombez amoureux ou quand vous avez l'impression de tomber amoureux. Ben, peut-être en effet que votre corps va vous trahir, mais comme vous avez des données internes à votre corps qui vont vous trahir également. Et ça, je ne vais pas vous faire de dessin. Y avait-il d'autres questions ?
Non, c'est bon pour moi.
Sûre ?
Oui.
T'es certaine ? Je n'ai pas un peu trop parlé.
Voilà, vous venez d'entendre tous les intervenants de ce podcast. On espère que celui-ci vous a plu et qu'il vous a semblé intéressant et engagé, surtout par rapport à la thématique. Un grand merci pour votre écoute et à bientôt.
Si l'enfer c'est les autres, alors pourquoi je m'emmerde à défendre les causes de gens que je connais pas. Un jour je dirai fuck que je me fous de plaire. Ça demande trop d'efforts et l'enfer ce sera moi. Je vous entends vous applaudir sur le bien que vous faites au monde, mais qui osera me dire tout le mal qu'ils pensent de moi. Les gens perdus me font rire et je donne pas à tous les tons. Ouais, je préfère partir malheureuse car ça n'engage que moi.
Ah ouais.
Tu penses que je suis fou? Là, je suis fou, mais j'ai pas le temps. Peut-être que je suis pas d'humeur à me révulser pour tout. Est-ce que c'est vraiment si important de toujours être à la hauteur de ce qu'on attend de nous? En fait, t'es qui toi? Rester au chaud dans ton fauteuil, ça te fatigue pas? Et dire que je m'inquiétais pour toi. Tu peux dire que je suis la pire, moi j'en ferai pas tout un cinéma. Paraît que je mens comme je respire, chacun pensera ce qu'il veut de moi. Comment faire? Finalement l'enfer c'était moi. Y'a plus rien à faire. J'ai tout essayé cent fois. Je préfère être malheureuse. Ça demande moins de force et ça n'engage que moi.